Et aujourd'hui, nous aurons pour thème conquérir Jéricho aujourd'hui. Si vous avez quelque chose pour écrire, vous pouvez noter cela. Conquérir Jéricho aujourd'hui. Nous lirons plusieurs versets dans les Écritures. Nous commencerons par le texte de Matthieu au chapitre 28. Et là, nous lirons du verset 18 au verset 20. Ensuite, nous lirons dans Josué chapitre 5, les versets 13 à 15. Les autres textes, nous les ajouterons au fur et à mesure. Est-ce qu'on peut lire ensemble Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20? La Bible dit ceci, « Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Josué, chapitre 5, nous lisons les versets 13 à 15. Josué, chapitre 5, versets 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?»« Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Il répondit ainsi et Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Amen. Aujourd'hui, nous voulons réfléchir et parler sur la conquête. Vous savez que, en tant que chrétiens, nous avons des terrains, des terres à conquérir, nous avons des projets, nous avons des choses que nous avons ciblées avec Dieu. Nous avons des projets, nous avons des idées, nous avons des initiatives. J'espère en tout cas que vous en avez, parce qu'un homme qui n'a pas de projet, c'est un homme qui n'a pas de progrès. Et le plus souvent, le progrès commence lorsqu'il y a de projets. Et si vous trouvez quelqu'un qui n'a plus que le projet de la mort, si c'est quelqu'un qui est en train d'attendre la mort, c'est quelqu'un pour qui, malheureusement, il ne reste plus beaucoup de choses à faire. J'espère en tout cas que vous qui êtes là en ce matin et ceux qui nous suivent au travers des médias, vous n'avez pas fait de la mort votre prochain projet. Celui qui n'a pas de projet n'a pas de progrès. Et si vous n'en avez pas aujourd'hui, je prie le Seigneur qu'il puisse vous en donner dans sa présence. Au nom de Jésus, amen. Jéricho, nous connaissons bien l'histoire. C'était une ville célèbre de l'époque. C'était parmi les cités les plus évoluées de l'époque. Les archéologues ont trouvé sur des sites des traces d'une civilisation qui était assez évoluée, parce que Jéricho est une ville qui se trouve en deçà du niveau de la mer. D'ailleurs, les fouilles archéologiques les plus récentes, les dernières des années 80, ont prouvé que ces hommes qui vivaient à Jéricho avaient développé une technologie qui était imprenable. Ils avaient certainement eu à faire face aux crues de l'eau, et peut-être qu'ils étaient aussi en train de vouloir se protéger des ennemis, qu'ils ont bâti, qu'ils ont construit ce qu'on appelle les murailles de Jéricho. Les murailles de Jéricho sont des choses qui ont, comment je peux dire, troublé l'intelligence des archéologues. Pendant des siècles, des chercheurs ont désiré trouver quel mystère se cachait. Comment des hommes qui ont vécu 8000 ans avant Jésus-Christ pouvaient avoir une technologie pour construire un mur d'une épaisseur de 6 mètres et d'une hauteur d'à peu près 20 mètres. Comment est-ce qu'ils faisaient? Les historiens disent que même sur les murailles de Jéricho, les chars pouvaient rouler. Alors essayez d'imaginer, c'est un peuple qui terrorisait ses voisins. Ajoutez à cela le fait Car Jéricho vivait des géants. Ils ne vivaient pas des hommes normaux, à la taille comme toi et moi. C'était vraiment des personnes très impressionnantes. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions regarder Jéricho comme étant quelque chose qui nous fait peur. Regarder Jéricho comme quelque chose, lorsque nous regardons à cela, nous-mêmes, nous trouvons que nous ne saurons rien faire face à cela. Je ne sais pas si vous traversez des choses, je ne sais pas si vous traversez des situations où lorsque vous vous comparez à ces situations, vous-même vous dites, je m'en sortirai pas. Jéricho, c'est ce symbole de quelque chose de solide, quelque chose de bien construit. Mais Jéricho, c'est aussi historiquement une ville qui était tellement fière d'elle qu'on l'appelait la ville ou la cité invincible, la cité imprenable, parce que les gens cherchaient souvent à accéder à Jéricho, mais ils n'arrivaient pas. Mais Dieu charge Josué d'aller conquérir Jéricho. Et c'est là que commence notre prédication d'aujourd'hui. Dieu charge Josué d'aller conquérir un peuple invincible, un peuple qui n'a pas connu de défaite, un peuple bien structuré, tellement bien structuré qu'il est capable de fermer ses portes et de rester autonome. Quand vous lisez dans Josué chapitre 6, les versets 1, la Bible dit que la ville de Josué était barricadée, personne n'entrait, personne ne sortait. Ça signifie que c'est une ville qui avait atteint un niveau de suffisance à telle enseigne que même s'ils étaient fermés entre eux, ils avaient toujours à manger. Essayez juste de vous projeter un pays comme le Congo, on ferme toutes les frontières, nous avons tout. Je prie le Seigneur, cela a toujours été le rêve de mon cœur, qu'un jour nous puissions arriver à cela. Il y a des pays qui ne font que consommer ce qu'ils produisent. Leurs boutons, les boutons de chemise, oui, je parle de ça, des allumettes, de l'huile, des habits et toutes sortes de choses. Ils sont capables de fabriquer les voitures, les fusées, les avions. Mon frère, est-ce que quand vous pensez à ce pays, vous priez aussi pour que de telles choses arrivent, que nous devenions ce qu'on appelle autosuffisants, et qu'on puisse faire une importation rien que pour des choses, on va dire, subsidiaires. Bien-aimés, ceux qui ont fait ça, ce sont des hommes qui ont deux pieds comme toi et moi. Et si nous comptons sur Dieu, nous aussi nous pouvons renverser des forteresses. Alléluia. Mais aujourd'hui particulièrement, à part ce que Jéricho représente pour le combat de la vie, dans cette semaine où nous nous préparons à une action évangélique, nous voulons aussi voir dans Jéricho le côté ou le message de Dieu qui nous envoie gagner un territoire pour lui. Parce qu'il s'agit des territoires. Et dans le combat spirituel, c'est un combat de territoire. Et le combat de l'évangélisation, c'est un combat de territoire. Je pensais que quelqu'un dirait « Amen ». Parce qu'à chaque fois que vous venez dans un peuple qui adore des idoles, vous venez annoncer le nom de Jésus, vous venez de gagner un territoire pour Jésus. Et cela sur le plan physique et sur le plan spirituel. Donc à chaque fois que vous entrez dans une maison, vous prêchez l'évangile et que les gens se convertissent, c'est un territoire que vous gagnez pour Jésus. Et c'est Jésus-là a dit, je vous envoie, allez, faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous prescris, car je suis avec vous tous les jours. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre voisin, je suis avec vous tous les jours? Amen. C'est ça la garantie et la grande commission que nous avons dans cette garantie merveilleuse. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours. Josué doit aller envahir le territoire de la Palestine. À cette époque-là, les enfants d'Israël avaient comme leader Moïse. Moïse ne plus, Dieu confie le reste de la mission à Josué. C'est Josué qui va faire entrer Israël dans la terre promise. Et quand ils sont sur ce chemin, ou ils sont dans cette marche, La première des choses qu'ils font, ils vont traverser le Jourdain. Par un miracle puissant, Dieu fait qu'ils passent de l'autre côté. C'est bien. Premier miracle. Ils traversent le Jourdain, mais ce n'est pas tout. Il faut maintenant aller prendre une ville. Mais cette ville-là, il y a des gens, et ce ne sont pas n'importe quels gens, ce sont des géants. Et vous venez, vous n'avez pas les armes qu'ils ont, vous n'avez pas la technologie qu'ils ont, vous n'avez pas l'organisation qu'ils ont, vous êtes des nomades. Mais eux, ils sont un peuple organisé et très bien civilisé. Comment est-ce que Josué devrait s'y prendre? C'est là que notre verset de base que nous avons lu revient, et je vais relire Josué 5. La Bible dit au verset 13, « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée nue à la main. Josué marcha vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Bien-aimé, dans toute bataille, dans tout combat spirituel, dans tout combat de territoire, dans toute conquête, il faut d'abord qu'on puisse s'assurer que vous avez levé les yeux. Les vrais combats et les vrais combats spirituels, les vrais combats de ceux-là qui travaillent pour Dieu, qui œuvrent pour Dieu, bien-aimé, ça commence là. Vous levez les yeux et vous levez les yeux vers Dieu. Il n'a pas levé les yeux vers les murailles de Jéricho, parce que les murailles de Jéricho vous intimident, les murailles de Jéricho vous font peur, les murailles de Jéricho vous complexent. Mais non, Josué lève ses yeux et regarde. Et lorsqu'il lève les yeux, il voit qu'il y a quelqu'un à côté de lui. Et cette vision est tellement terrifiante. Il y a quelqu'un qui tient une épée dégainée. L'épée est déjà nue. Il est debout. Alors, Josué est quand même courageux. Je ne sais pas qu'est-ce que vous aurez fait à sa place. Moi, en tout cas, je ne sais pas si j'allais m'approcher, hein, mais il me donne l'impression d'être venu de près. Il pose la question à un homme de ce genre-là. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? C'est une question capitale. J'aimerais dire, comme premier point, c'est qu'il est très important, lorsque nous voulons aller dans la conquête, que nous puissions commencer d'abord par rencontrer Dieu face à face. Vous ne pouvez pas conquérir Jéricho, que ce soit pour l'évangélisation, que ce soit pour les défis de votre propre vie, sans commencer par la présence de Dieu. Les vrais succès, les vrais exploits sont les résultats des hommes et des femmes qui viennent puiser dans la présence de Dieu. Il faut aimer la présence de Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut venir à l'église. Venez à l'église, c'est bien, gloire à Dieu. Mais il faut aimer la présence de Dieu. On peut venir à l'église sans être dans la présence de Dieu. On peut être assis là le dimanche à la borne et ne pas être dans la présence de Dieu. On peut être pasteur en train de prêcher comme je le fais et ne pas être dans la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui appartient à un endroit particulier. Et c'est ça ce que cet homme lui dit. Il lui dit, l'endroit où tu es est déjà un endroit saint. Ce qui fait de l'endroit saint, ce n'est pas parce que c'est à l'église la borne, c'est parce que Dieu est là. Alléluia! Pourquoi nous prions dans nos maisons? Mais c'est parce que Dieu est là. Est-ce qu'il n'y a pas des prières que Dieu vous exauce quand vous priez à la maison? Est-ce que vous ne priez pas dans votre voiture? Est-ce que vous ne priez pas dans votre bureau? Alléluia! Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu cherche, c'est que nous soyons conscients dans nos combats que tout commence dans la présence de Dieu. Si vous n'avez pas ce face-à-face-là avec Dieu, vous n'allez pas remporter. Josué, tu as une grande bataille. Josué, tu peux pas faire que ces géants. Josué, tu ne peux pas entrer dans Jéricho. Comment tu vas faire? Les gardes sont postés tout au long de la muraille. Ceux qui sont en hauteur ont l'avantage de voir tous ceux qui sont en bas. Comment tu vas faire pour entrer? Ah, Josué, la ville est imprenable, mais quelque chose de puissant se fait. Et j'aime ça, avant chaque défi de la vie, avant chaque grand moment, est ce moment d'intimité avec Dieu.
La bataille de Josué 6, qui est une grande victoire, là où les murailles tombent, cette victoire-là a été semée dans Josué chapitre 5. C'est dans le cinquième chapitre que Josué a gagné sa victoire. Et au chapitre 6, il est juste allé la manifester. On ne remporte pas la victoire avec des slogans. Malheureusement, aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, il y a beaucoup de slogans. Des gens ont des slogans, mais ils ne veulent pas entrer dans la présence de Dieu. Les gens ont des slogans, ils ont des cris. Et ils ont même l'habitude de vouloir que les gens prient pour eux. Je ne suis pas contre la prière, mais il y a des combats de la vie dont tu n'en sortiras jamais par des impositions des mains. Excuse-moi de te le dire comme ça. Il y a des choses qui ne changeront pas dans ta vie parce qu'on t'a imposé les mains, mais parce que toi-même, tu as appris à ployer les genoux, à plier les genoux devant Dieu. Gloire à Dieu pour ceux qui prient pour nous. Gloire à Dieu pour ceux qui nous imposent les mains. Mais Josué, Dieu t'attend à un face-à-face. Jusqu'à quand tu seras un homme qui n'aime pas la présence de Dieu, qui dort dans la présence de Dieu, qui n'arrive pas à se concentrer dans la présence de Dieu, et pire, qui s'ennuie dans la présence de Dieu. Josué, tu ne pourras pas vaincre ces géants de toi-même. Ton expérience de grand guerrier ne suffit pas. Vous savez, à ce moment précis, Josué a déjà fait preuve de son leadership. Josué a déjà fait preuve de ses stratégies de grand guerrier. Josué a déjà fait preuve de tout ce qu'il a comme capacité de coordonner les troupes et de mener une guerre. Au-dessus de tout ce qui est stratégie militaire, Josué a aussi montré qu'il était avec Dieu parce qu'il a déjà fait traverser le peuple le Jourdain. Le Jourdain, c'est un très grand. Pour nous aujourd'hui, c'est vrai que ça peut être asséché, mais quand vous lisez les textes, à ce moment-là précis, c'était le moment où la glace était en train de fondre. Donc le niveau de l'eau était très élevé. Mais malgré cela, Josué a été capable de faire traverser le peuple le Jourdain. C'est un homme qui a un record. C'est un homme qui a des expériences avec Dieu. Mais pour cette fois-là, pour la bataille de Jéricho, Josué avait besoin d'un face-à-face avec Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, face-à-face avec Dieu? C'est très important d'avoir ce moment-là. Je vous en supplie, frères, sœurs, n'allez pas dans un combat sans aller dans la présence de Dieu. N'allez pas dans un nouveau cycle de la vie, n'affrontez pas de nouveaux défis sans vous assurer que vous êtes avec celui-là qui s'appelle le chef de l'armée de l'Éternel. Le chef de l'armée de l'Éternel était lui-même là. Deuxième préalable, si vous voulez conquérir Jéricho, c'est qu'il faut aller avec Dieu. Dans mes notes, j'écris « aller avec Dieu, virgule, ne pas aller sans Dieu ». Je préfère que vous écriviez ça comme ça. Aller avec Dieu et ne pas aller sans Dieu. Ça semble être la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Aller avec Dieu et ne prenez pas le risque de partir si Dieu n'est pas avec vous. Alléluia. J'aime beaucoup quand Moïse dit dans Exode 33 au verset 15, il prie, il dit à Dieu, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Ces hommes-là étaient conscients de ce que partir avec Dieu représentait pour les défis. Si tu ne viens pas toi-même avec nous, alors ne nous fais pas partir d'ici, Seigneur. Au pied du mur, au pied des murs de Jéricho, au pied des murailles arrogantes et provocatrices de Jéricho, là, Josué fait cette révélation merveilleuse. Le chef de toute principauté, de toute domination, le vainqueur possédant la puissance de détruire toutes les œuvres de l'ennemi, celui que notre pasteur appelle le cavalier du cheval blanc. celui-là lui-même se rencontre face à face avec lui. Il lui dit, petit, ne crains pas. Il lui pose une question. Est-ce que tu es pour nous ou bien tu es contre nous? Mais il ne lui répond pas, je suis pour vous ou je suis contre vous. Il lui donne seulement une réponse. Il lui dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Josué, tu cherches à savoir, il est avec toi ou contre toi. Je te comprends, Josué, tu es un homme de guerre, tu es un stratège fin, militaire, mais Josué est celui avec qui tu discutes là. C'est celui qui donne des ordres aux anges, celui qui déploie les miracles à grand nombre. C'est celui qui peut changer la destinée de quelqu'un en une seconde. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Ah, mon frère, ne prends pas les risques d'aller sans Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu affrontes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez en famille, en couple ou dans une organisation quelconque. Mais je t'en supplie, ne prends pas le risque d'aller sans Dieu. Église de la Borne, alors que nous sommes en train de préparer ces temps d'évangélisation, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'aller avec Dieu. Alléluia! Nous voulons que Dieu vienne avec nous et nous disons comme Moïse, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici, Seigneur. Amen. Beaucoup de gens parlent du pays de la promesse et ils s'imaginent conquérir ce pays-là. Je ne sais pas quel est le pays de la promesse pour vous, maintenant là, à quoi vous pensez quand je parle du pays de la promesse? Ça peut ne pas être forcément la même chose pour tous. Mais mon frère, ma sœur, il faut apprendre à se jeter aux pieds du Seigneur. Quand Josué se rend compte que celui avec qui je discute, c'est le chef de l'armée de l'Éternel. Josué était un grand stratège militaire, mais il s'est rendu compte qu'il était en face du plus grand stratège. Les stratèges et des stratèges et des stratèges et de tout ce qu'il y a comme stratagème sur le plan militaire. C'était lui-même qui discutait avec lui. Il s'est dit, ok, je suis dans un combat, je dois affronter un adversaire, et juste avant d'entrer dans cette guerre, quelqu'un vient à moi. Waouh! Josué capitalise, il garde cela. Alléluia! Notre meilleure stratégie, c'est d'avoir Dieu avec nous. Dieu est l'expert, le stratège de tous nos combats. Il a dit à ses disciples, dans Matthieu 28 que nous avons lu, « Je suis avec vous tous les jours. » Ça paraît être comme une phrase banale. Nous lisons ça souvent, mais nous ne rendons pas compte de la profondeur. Souvent, Jésus dit, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Mon frère, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, Jésus est avec nous tous les jours. Tous les jours. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus te promet, il est avec toi tous les jours. Tous les jours. Peut-être tu n'as pas à manger, peut-être tu passes par des temps difficiles, peut-être ce que tu cherches, tu n'as pas encore trouvé. Mais je peux te rassurer que Jésus dit qu'il est avec toi tous les jours. Celui qui dit à ses disciples, je suis avec vous tous les jours, il commence son discours en disant, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Quand Jésus dit « tout pouvoir m'a été donné », c'est que tout ce qui est pouvoir lui a été donné. Et il n'a pas seulement reçu ça pour un secteur particulier, non. Dans les cieux là-bas et sur la terre, dans tout, il y a tout. Et quand Jésus dit « tout pouvoir lui a été donné », c'est que tout pouvoir lui a été donné partout et il nous envoie partout afin de parler à tous les hommes, de leur enseigner tout ce qui est prescrit, et lui, il est avec nous tous les jours. Remarquez combien de fois le mot « tout » revient dans ce texte. Jésus a tout pouvoir. J'ai une bonne nouvelle pour toi, toi qui t'inquiètes. Jésus a tout pouvoir. là au ciel, ici sur la terre, que tu sois en train de lutter avec des hommes, que tu sois en train de lutter avec des esprits, que tu sois en train de lutter avec des sorciers, que tu sois en train de lutter avec des occultistes, j'ai une bonne nouvelle pour toi, il y a quelqu'un à qui tout pouvoir a été donné, et cette personne s'appelle Jésus. 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 Celui-là qui dit « Je suis avec vous tous les jours », ce n'est pas n'importe qui, c'est celui qui a tous les pouvoirs. Les gens se battent d'aller dans les délégations avec les chefs. Les gens se battent pour se retrouver avec celui qui a le pouvoir financier. Les gens cherchent à se faufiler pour porter le sac d'un homme riche. Mais mon frère, je t'annonce une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui a tous les pouvoirs. Il s'appelle Jésus et il te dit, je suis avec toi tous les jours. Oh, donc tous les jours, si quelqu'un cherche Dieu, il peut venir me chercher. Je suis l'adresse de Dieu. Non, je disais ça pour toi. Est-ce que tu peux dire, je suis l'adresse de Dieu? Parce que finalement, c'est toi l'adresse de Dieu. Et c'est ce que l'ange est en train de dire à Josué. Le lieu où tu te trouves là, c'est déjà un lieu saint parce que Dieu est là. Et quand Dieu est là où toi tu te trouves, là où tu te trouves, c'est que c'est là où Dieu est. Et l'adresse de Dieu, c'est toi. Ah, je vois les endroits où Dieu habite. Dieu habite ici, là, là. Dieu habite ici, Dieu habite partout là-bas. Nous sommes l'adresse de Dieu et tout pouvoir revient à celui qui nous envoie. Souvent, nous oublions cela lorsque nous regardons les murailles de Jéricho, nous avons peur. Quand nous regardons ces géants, souvenez-vous de l'histoire de Nombre 13, lorsque les douze espions sont partis inspecter le territoire. Le génie militaire, justement, de Josué se révèle là. Josué envoie des gens faire une prospection. Bien-aimé, des siècles avant, cet homme avait déjà cette stratégie. Dans tout ce qui est art militaire, avant d'engager une guerre, il faut faire la reconnaissance du terrain, connaître c'est quoi ton ennemi. Et Josué a organisé cette mission de prospection. Il part, ils sont au nombre de 12 à l'époque, c'est Moïse qui était le leader. Il n'y avait que Josué et Caleb qui avaient eu un discours positif. Il était parmi les 12 espions. Ils arrivent dans le territoire, ils regardent. Il voit à quoi ressemble le territoire. Mais quand ils reviennent, les gens qui n'avaient pas la foi, ils se sont dit, non, mais ce pays-là va nous tuer. Ils disent, c'est un pays qui dévore ses habitants. Ils étaient d'autant plus complexés qu'ils avaient cueilli un fruit, mais ils étaient obligés de le porter à deux. Imaginez-vous une fois, vous allez dans un pays, vous cueillez une mangue, mais vous devez porter la mangue à deux. Vous vous dites, je suis dans quel pays? La mangue, on porte ça à deux. Vous prenez les pondous, vous ne pouvez pas porter ça normalement, il faut être à cinq. Mais les habitants de ces pays tiennent ça comme ça. Bon, toi-même, quand tu regardes, tu dis, non, ce pays-là va me finir. Ça me fait souvent rire lorsque je regarde le récit des espions, des 10 espions. Il y en a qui disent dans le premier groupe, ils disent ce pays-là, il dévore ses habitants, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Je me demande toujours qui leur avait prêté les yeux des habitants pour qu'ils voient comment on les voyait. Mais vous voyez la peur, hein, ce que ça fait de nous. Mon frère, ma sœur, Dieu est celui qui a tout pouvoir. Quand tu pars pour gagner les âmes, quand tu pars pour évangéliser, n'aie pas peur. Quand tu pars pour les défis de la vie, n'aie pas peur. Même si on te dit c'est la maison d'un magicien, entre et parle-lui de Jésus. Même si on te dit ici c'est quelqu'un qui ne sort pas, il va sortir, tu vas lui parler de Jésus. Nous avons eu par moments à faire des expériences sur le terrain d'évangélisation. Je me souviens une fois, on est allé prêcher dans un quartier, c'était très tôt le matin. Ce jour-là, Papa Timothée, responsable d'évangélisation, m'avait donné d'utiliser notre mégaphone là, de l'église qu'on avait à l'époque. Il était 4h30 et moi j'étais en train d'évangéliser. Et je me souviens qu'un monsieur a ouvert la fenêtre de sa maison, il a commencé à m'insulter. Donc toi tu es en train de prêcher. Il a commencé à m'insulter. Il m'insultait sérieusement. Alors, j'ai lui seulement répondu, « Monsieur Jésus vous aime tellement qu'il vous réveille ce matin. » J'ai vu comment il a claqué la fenêtre de sa maison, plein de rage et de colère. Il est arrivé aussi sur les terrains d'évangélisation, d'aller dans les milieux où vous arrivez, on vous dit ici c'est une maison, les gens sont dans les sciences occultes. Et vous commencez à prêcher, et le monsieur même qu'on dit être un grand occultiste, lui-même vient. Il vous dit non, j'aimerais que vous puissiez m'aider à me débarrasser de ceci. Ce que je vous raconte là m'est arrivé, j'avais 16 ans. Je n'étais même pas un pasteur, rien du tout. J'étais un bout d'homme comme ça. On était allé évangéliser dans une maison. Ce monsieur-là était très poussé dans l'occultisme. Mais je ne sais pas ce qu'il avait vu en nous. Mais des fois, nous-mêmes, nous ne savons pas ce que les gens voient. Nous aussi, on nous avait appris à l'église que quand ces choses-là, vous priez, non? On a prié, on a demandé les allumettes, on a brûlé au nom de Jésus. Et ce monsieur-là a donné sa vie à Jésus. Et j'ai vu comment est-ce que le Seigneur lui a donné de récupérer sa santé. Pendant des années, il avait une pièce dans la maison où il ne pouvait jamais entrer. Où il entrait seul. Personne de sa maison pouvait entrer. Et il fallait maintenant aller prier dans la pièce. Ah, bien-aimé, il faut conquérir Jéricho. Je ne vous prêche pas des slogans. C'est des choses que le Seigneur peut faire si tu as confiance en Dieu et si tu sais que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous sommes entrés, nous n'avons pas fait des cérémonies, on n'avait pas de sel, on n'avait pas de l'eau, on n'avait pas quelque chose d'autre. On avait seulement dans la bouche J-E-S-U-S, Jésus. On a fait la prière au nom de Jésus. Et puis on a dit, maman, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez entrer. Si vous pouvez dormir, vous dormez, parce que à partir de ce moment, ça devient le lieu où Dieu habite. C'est ça le combat spirituel. Dieu veut que nous puissions gagner des territoires. Ces territoires peuvent être des vies humaines, ces territoires peuvent être des endroits, mais ces territoires peuvent être peut-être pour quelqu'un une situation, une maladie, quelque chose de dur que vous traversez. Le terme que Jésus utilise dans Matthieu au chapitre 28 que nous avons lu pour dire « tout pouvoir m'a été donné », c'est un mot grec, en grec ça se dit « exousia ». Quand il dit « tout pouvoir m'a été donné », le mot « exousia » revient plusieurs fois dans le Nouveau Testament et il signifie « l'autorité ou le pouvoir d'exercer l'autorité ». Il vient du sens de quelqu'un qui a reçu la capacité d'exercer l'autorité et de déléguer l'autorité. C'est pour ça que Jésus, non pas seulement, il a la capacité d'exercer, mais il peut déléguer. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le pouvoir de déléguer. On lui donne l'autorité, on dit, hé, c'est seulement toi qui signes. Mais le exousia signifie quelqu'un qui reçoit une autorité, mais cette autorité, il peut déléguer. Et j'ai une bonne nouvelle, cette autorité a été déléguée à nous, enfants de Dieu. Cette autorité est là maintenant avec toi. Quand tu plies les genoux, l'enfer entier tremble. Pourquoi? Parce que tu es l'adresse de Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, parce que tu es l'adresse de Dieu? Amen. Ah, Josué, tu as un grand combat, tu as une grande bataille, mais si tu pars avec Dieu, tu seras vainqueur. Troisièmement, pour conquérir Jéricho, il faut aller avec foi. Il faut pas aller combattre contre Jéricho en étant incrédule. Il faut avoir la foi. La Bible définit la foi comme étant une ferme assurance. Une ferme assurance. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un, vous sentez en lui qu'il a de l'assurance. Il ne doute pas. Les choses paraissent contraires, les vents paraissent à son désavantage, mais il part quand même. Dans Hébreux chapitre 11, les versets 30, Hébreux 11, verset 30, la Bible dit, « C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. » Je relis, « C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. » C'est par la foi. C'est comme ça que la Bible elle-même décrit cette histoire qui s'est passée dans Josué chapitre 5 et chapitre 6. C'est par la foi. Est-ce que vous pouvez imaginer, vous avez un obstacle, vous commencez à tourner, vous tournez, et puis vous sonnez la trompette, pas, et puis l'obstacle tombe. Ah, il faut avoir la foi. Il faut vraiment avoir la foi. Dieu lui a dit, je te livre Jéricho, ses hommes, sa ville, ses trésors, je te livre tout. Mais, mon frère, ma sœur, il y a des combats dans la vie, quand vous les affrontez vous-même, vous avez peur. Dans la Bible, il y a plusieurs combats que les enfants d'Israël ont livrés. Mais le combat de David contre Goliath, et la bataille de Jéricho reste parmi les batailles les plus particulières, avec une stratégie particulière, avec une foi aussi particulière. Je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez, je ne sais pas à quoi vous vous attendez, mon frère, ma sœur, il faut y aller avec foi. Et même quand nous irons pour prêcher l'Évangile, même quand nous irons dans les rues, parce que vraiment, je vous espère nombreux avec moi dans les rues de Lipen. Nous descendrons là-bas à Pigeon, nous irons jusqu'à Delvaux, pourquoi pas vers Kiss plus bas là-bas, prêcher l'Évangile. Mais nous devons le faire avec la foi, que les gens à qui nous apportons le message recevront cet Évangile. Quand vous lisez l'histoire de l'Église, comment est-ce que les missions des évangélisations sont nées, vous vous rendez compte, bien-aimés, que les gens qui ont évangélisé le monde, ils avaient la foi. Il y a un homme qu'on appelle William Carey, c'était un Britannique, la plupart des grands missionnaires sont venus justement de cette église de Grande-Bretagne, c'est celui qu'on appelle le père de la mission moderne. William Carey est allé prêcher l'évangile dans les Indes, au moment où personne ne pouvait imaginez que les Indiens pouvaient donner leur vie au Seigneur. Les gens ne s'en occupaient pas. Le pouvoir colonial était déjà là. Les Anglais avaient déjà pris des nations par-ci par-là parce que les rêves des Britanniques, c'était d'étendre leur royaume et que le royaume britannique soit un royaume, on va dire, un peu planétaire. Ils voulaient avoir des extensions partout, mais ils ne s'intéressaient pas à évangéliser. Puis cet homme-là a eu un fardeau. Le jour où il s'élève, l'histoire dit, le jour où ce cordonnier s'élève, il dit que je veux aller évangéliser. Dans l'église où il priait, quelqu'un lui dit, tu es fou? Il lui dit, si Dieu a besoin de sauver les Indiens, Dieu lui-même va le faire. Et lui, il a dit, non, je vais vendre tout ce que j'ai, je vais donner toute ma vie pour aller évangéliser les Indes. Ça m'a fait mal, à l'époque où j'étudiais ces choses-là, de voir combien cet homme est allé sur la terre missionnaire. Ses enfants sont morts, sa femme est devenue folle. Mais c'est l'homme qui a traduit la Bible en 40 langues sur la terre indienne. Il a fait recevoir Jésus aux gens qui ne connaissaient pas Jésus. Voyez-vous, et moi c'est facile quand on nous parle de Jésus, parce que ça, c'est depuis 1700 qu'on est déjà venu avec l'évangile, que les catholiques ont fait l'évangélisation, que les protestants ont fait l'évangélisation, que les gens de l'Est et de l'Ouest ont été évangélisés par les communautés Assemblies of God ou tout ce qui est les églises baptistes. Mais à cette époque, il n'y avait rien. Il n'y avait que des féticheurs en face de lui. Mais il avait la foi. Quand vous lisez dans ses mémoires comment il pleurait, comment par moments il se demandait, Seigneur, est-ce que vraiment Moussa Nazo, c'est le Rossimba.
permettez que je le dise en lingala. Et puis finalement, un jour, un Indien a donné sa vie au Seigneur. Un deuxième, un troisième, un quatrième. Mais c'était parti. L'évangile était entré dans cette nation-là. Alléluia. Il faut avoir la foi. Vous imaginez les premières personnes qui sont venues prêcher l'évangile dans ce pays? Ah! Il y en a un qu'on a, on a enseigné à l'école. Mais souvent, on nous dit que c'était un explorateur, Livingstone. C'était un missionnaire. C'est un monsieur qui est venu prêcher l'évangile. Ces gens-là, ils avaient la foi. Ils parlaient pas notre langue. Ils n'avaient pas les moyens de communiquer avec nous. Ils étaient convaincus que si j'arrive, quelqu'un donnera sa vie à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, notre condamnation à nous sera grande. Nous là, qui sommes dans cette génération. Nous avons une tâche beaucoup plus facile de prêcher un Jésus dont les gens ont déjà entendu parler. Parce que eux arrivaient dans des endroits où on n'avait jamais cité le nom de Jésus, parce que c'est la définition fondamentale d'un missionnaire, c'est celui qui parle de Jésus dans un endroit où il n'a jamais été prêché. Mais nous, nous avons des voisins, nous avons des collègues à l'université, au travail, à l'école, nous avons des personnes avec qui nous travaillons, avec qui nous vivons, qui ne connaissent pas Jésus. Mais nous n'avons pas la foi qu'ils peuvent être sauvés. Nous voulons même pas des fois qu'ils soient sauvés. Parce que nous nous prions même pas pour qu'ils soient sauvés. Ce que j'aime dans la conquête de Jéricho, c'est qu'il y a une femme de mauvaise vie qui a été sauvée. La Bible dit qu'elle s'appelait Rahab. Partout où on parle d'elle, le plus souvent, on ajoute toujours Rahab, la prostituée. Le verset 30 où nous nous sommes arrêtés, si vous descendez juste au verset 31, il est parlé d'elle comme étant une prostituée, mais qui a rencontré le Dieu d'Israël. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Rahab, la prostituée, est devenue une des ancêtres de Jésus. Rahab, la prostituée, est l'ancêtre du roi David. Rahab, la prostituée. C'est ça l'évangile de Jésus. J'aime toujours dire, il n'y a pas que la Vierge Marie dans la généalogie de Jésus. Il y a aussi une prostituée. Et c'est ça le message de l'évangile. Et il faut de la foi pour prêcher cela aux gens. Pour dire à quelqu'un, malgré ta mauvaise vie, peut-être vous êtes là dans cet auditoire, peut-être pendant que vous êtes en train de me suivre, là à l'instant, vous savez que vous êtes loin de Dieu. Mais le Dieu qui a sauvé Rahab la prostituée, et qui a fait d'elle un des enfants d'Israël, qui a fait d'elle la mère de Boaz, l'arrière-grand-mère du roi David, celui qui a fait qu'on la cite parmi les héros de la foi dans le chapitre 11 qui est réservé à cela dans Hébreux, et celui qui fait qu'on parle d'elle dans Jacques 2 comme un modèle d'obéissance, ce Dieu-là peut sauver des Rahab. Amen. Rahab, la prostituée, non pas seulement a été sauvée seule, mais elle a été sauvée avec les membres de sa famille. Je prie que pendant cette campagne d'évangélisation, que Dieu nous donne de cibler des hommes, quand ils viennent avec leurs membres de famille. Qu'ils viennent avec, s'il est l'homme, qu'il vienne avec sa femme. Si c'est la femme, qu'elle gagne l'homme, qu'il gagne les enfants. Si c'est les enfants, qu'il gagne les parents, au nom de Jésus. Dieu donne-nous des Rahab, des gens par qui nous pouvons être sûrs. Si l'homme est sauvé, la femme est sauvée. Si la femme est sauvée, les enfants sont sauvés. Que Dieu nous donne, quand nous serons en train de marcher dans les rues, de rencontrer des Rahab. Nous ne voulons pas chercher des propres justes, ou même forcément des gens qui ont bonne vie. Non, Seigneur, donne-nous des Rahab et qu'on puisse les gagner pour toi. Eh, vous ne voulez pas dire Amen, hein? Dieu aime aussi Rahab, la prostituée. Rahab, pendant qu'elle était dans sa mauvaise vie, a eu la grâce de rencontrer des messagers de l'Évangile. C'est ce que cette histoire signifie. Elle va mettre un fil rouge écarlate sous la fenêtre de sa maison, qui encore est le symbole de ce sang de Jésus, qui permet à ce que quelqu'un, un homme, une femme, s'il donne sa vie à Jésus, il croit à l'œuvre de la croix, que cette personne soit sauvée.
Rab la prostituée me rappelle aussi le fou de Gadara. Cet homme que Jésus rencontre dans Marc chapitre 5, il était fou, il dormait dans les tombeaux, il était un homme qui se meurtrissait, il s'est lacéré la peau, il se blessait lui-même, il dormait dans les cimetières sur les tombeaux. Mais la Bible dit que lorsque Jésus va chasser ses démons, il redevient normal. Le monsieur va supplier Jésus, dit « Jésus, je veux partir avec toi, je veux commencer à être ton disciple. » Jésus dit « Non. Moi j'ai un autre projet pour toi, je t'envoie prêcher, tu vas rester ici, j'ai fait quelque chose dans ta vie. » Si vous voulez lire à la maison, lisez Marc chapitre 5, 19 à 20, je ne le lirai pas, vous allez lire à la maison. Là-bas il est dit « Pas témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie. » Et la Bible dit au verset 20, « Cet homme-là, qui était le fou, connu comme étant fou à Gadara, est devenu le prédicateur de la décapole. » Ça signifie le prédicateur des 10 villes. Un fou de Gadara est devenu un évangéliste de 10 villes. Là où les hommes voient un fou, Dieu voit un évangéliste. Là où les hommes voient un fou, Dieu voit un gagneur d'âme. Là où les gens voient une prostituée, Dieu voit un gagneur d'âme. Là où les gens voient un ivrogne, Dieu regarde ce qu'il va faire de cette personne. Alors allons conquérir Jéricho, libérons les Rahabs qui y sont au nom de Jésus. Quatrième chose, quatrième préalable pour conquérir Jéricho, il faut aller dans l'obéissance aux instructions divines. Il faut obéir aux instructions, des instructions divines. Dieu donne des instructions. Pour ce qui s'agissait de nos amis Josué et toute son armée, la Bible dit dans Josué chapitre 6, le verset 1 à 5, Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites, personne n'en sortait et personne n'y entrait. Verset 2, Josué 6, l'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. » Dieu avait donné les instructions claires. Et parmi ces instructions, pendant 6 jours, il venait, il faisait un tour. Et il leur avait été demandé de garder silence. Waouh! Je ne sais pas comment ils faisaient. Pendant tout ce temps-là, ils ne parlaient pas. Ils étaient là seulement comme ça. Ça paraît bête. Mais bien aimé, des fois le Seigneur peut te demander de faire quelque chose. Mais tu ne sais pas ce que le Seigneur cherche à voir, c'est seulement l'obéissance. L'obéissance, l'obéissance. Des fois nous oublions, Dieu veut seulement voir en nous l'obéissance. Un ami pasteur m'a raconté une fois qu'il était en train de prêcher quelque part dans un pays, il devait prier pour un paralytique, quelqu'un qui venait, il était sous des béquilles, et il a entendu clairement la voix du Seigneur lui demander de lui enlever les béquilles. Lui-même, avec l'intelligence et tout ce qu'il avait, il a dit, « Hey, Seigneur, si ça ne marche pas. » Il a encore entendu clairement le salut, « Arrache-lui les béquilles. » Bon, il a dit, « J'ai pris les risques, je suis arrivé, et puis j'ai pris les béquilles. » J'ai dit, « Bon, Seigneur, de toute façon, c'est toi, c'est ton évangile. Si ça marche, c'est toi. Si ça ne marche pas, c'est toi. » Il n'avait même pas la foi, il avait la peur. Il dit que quand je commençais à remonter avec les béquilles, j'entendais les gens derrière à terre crier, « Il a dit, « Waouh, Seigneur. Alléluia. » Ah, des fois, vous ne savez pas ce qui se passe avec les pasteurs. Vous croyez que c'est des faiseurs de miracles. C'est Dieu qui est le faiseur des miracles. C'est à Dieu que revient toute la gloire. Mais ce que Jésus cherche, c'est un homme, une femme qui obéit. Fais le tour de la maison, prie la nuit. Je ne sais pas quelle est la directive que le Seigneur te donne. Réveille-toi la nuit, prie! Vous savez, j'aimerais m'adresser aux hommes spirituels. Si vous êtes spirituels, vous me comprendrez. Mais les hommes qui ne sont pas spirituels ne peuvent pas comprendre cela. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des moments où vous avez une bataille et Dieu vous donne une directive précise. Observez cela. Ne mangez pas, ne mangez pas. Moi, j'ai ici, je ne citerai pas le nom, j'avais un de mes responsables d'équipe d'intercession. Nous avions une campagne d'évangélisation en 1998 à la Cité Verte. Je ne peux jamais oublier ça. Le premier jour, il y a eu une grande pluie. Terrible. Les gens ne sont même pas venus. Alors, le Seigneur lui donne, à lui, notre directeur, notre chef, la directive qu'on ne devait pas parler. Ces choses ici, je ne vous raconte pas des histoires. Moi-même, j'ai vécu ça. Donc, on était en retraite, on ne parlait pas. On priait seulement. Quand la prière finit, je vous dis, c'est compliqué. Hein? Quand la prière finit, mais bien aimés dans le Seigneur, nous avons obéi. Ce que nous avons vu le Seigneur faire les jours qui restaient de la croisade, en tout cas, ceux qui y sont à l'église depuis cette époque se souviendront. On a vu la gloire de Dieu. Bien aimés, il y a une bénédiction lorsque vous obéissez aux directives du Seigneur. Dieu parle des fois, il vous dit juste une chose simple. Non, ne gaspille pas ton temps à discuter avec telle personne. Parle-lui de l'amour de Jésus. Ou parle-lui du pardon. Ou raconte-lui ton témoignage. C'est des fois des phrases simples comme ça qui viennent sur le terrain d'évangélisation. Mais quel que soit le terrain de ton Jéricho, mon frère, ma sœur, suis la directive. Alléluia. Alléluia. J'aimerais terminer en nous rassurant que Jéricho va tomber. Jéricho va tomber. Je répète encore, Jéricho va tomber. Le Jéricho va tomber dans nos vies et les Jéricho vont tomber dans les âmes que nous allons partir gagner pour Jésus. Jéricho va tomber. Jéricho ne sait pas qu'il va tomber, mais nous savons que Jéricho va tomber parce que Dieu nous a dit que Jéricho va tomber. Nous avons l'avance parce que nous avons l'information qui vient de Dieu et Dieu a donné l'information exacte. C'est que Jéricho va tomber. Jéricho est encore en train de se glorifier de ses grands soldats. Jéricho a fermé la porte de la ville. Jéricho empêche aux gens d'entrer. Mais Jéricho, tu n'empêcheras pas au roi des rois d'entrer. Tu n'empêcheras pas à son armée d'entrer. Il a juste dit, faites le tour. Ils font le premier jour un tour, le deuxième un tour, ainsi de suite. Et le septième, ils en font sept et ils sonnent la trompette. Les murailles tombent. Les archéologues qui ont travaillé, qui sont allés pour vérifier ce qui s'est passé. Il y a une mission qui est passée en 1936 pour déterrer les pierres de Jéricho. Ils ont trouvé que la manière dont la muraille de Jéricho s'est écroulée, c'est comme si quelqu'un avait marché dessus. Donc ils ont trouvé des murs qui étaient descendus comme en bloc. C'est pas que c'était tombé, non. Ça s'était affaissé. Comme si quelqu'un était venu, quelqu'un de lourd, était venu se poser sur chacun de ces murs. J'ai été touché moi-même en lisant cela. Je me suis dit, waouh, le Dieu que nous servons, il a la capacité de briser ce qui nous semble impossible. Est-ce que ce matin on peut se lever ensemble? Est-ce qu'on peut se lever ensemble et parler un moment à ce Dieu-là? Celui qui fait des miracles, celui qui fait des chemins, celui qui peut faire tomber Jéricho. Quel que soit le Jéricho que vous affrontez, il n'y a pas de Jéricho qui soit capable de les terroriser. J'aimerais que tu commences à parler à Dieu. N'attends pas une chanson, n'attends pas une mélodie quelconque. Parle à Dieu. Je ne sais pas quels sont les Jéricho que tu es en train de traverser. Je ne sais pas quels sont les Jéricho que vous êtes en train de traverser. Mais j'aimerais aussi que tu pries en te préparant spirituellement pour l'évangélisation pendant toute cette semaine. Toutes ces âmes que nous allons gagner. Toutes ces personnes vers qui nous irons. Jéricho va tomber. Jéricho va certainement tomber. Jéricho va certainement tomber par la puissance de Dieu. Lorsque les hommes iront par la foi, la soumission, l'obéissance, le dépouillement devant Dieu, Jéricho va tomber. Car le chef de cette armée notre va, nous le suivons tous pas à pas. Aucun ennemi ne tient dans ce combat. Oui, car le chef de cette armée, nous le suivons tous.
Nous le suivons tous pas à pas.
Aucun ennemi,
aucun ennemi ne tient dans ce combat.
Oui, car
le chef de cette armée, notre roi.
Nous le suivons tous.
Nous le suivons tous.
Pas à pas.
Aucun ennemi ne tient.
Je te prie en ce jour pour que tu donnes ta victoire. Tu connais ce que mon frère traverse. Tu connais ce que ma sœur traverse. Je prie que tu nous donnes de conquérir Jéricho. Tu sais ce que représente Jéricho dans sa vie. Donne la victoire à un homme. S'il te plaît, donne la victoire à une femme. Donne la victoire à une famille. Je prie aussi, Seigneur, pour cette semaine. Nous voulons que les cœurs des hommes soient gagnés pour Dieu. Que les hommes et les femmes soient gagnés pour Dieu. Et que Jéricho puisse tomber, les Jéricho d'incrédulité puissent tomber. Que les Jéricho des maladies puissent tomber. Que les Jéricho d'endurcissement puissent tomber. Que les Jéricho de toutes sortes puissent tomber. Dans le nom de Jésus.